alternative forestière à Alterland. Première partie. Il s'agit de la 30e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zanzine en partenariat avec le RAF, le réseau pour les alternatives forestières. Nous nous sommes retrouvés le 2 et 3 juillet 2021 pour l'Assemblée Générale du RAF à Moustet, dans les Landes. Il s'agit d'une des régions les plus boisées de France, emblématique de la production industrielle de bois. 1 million d'hectares de pins maritimes parfaitement alignés, la plus grande plantation artificielle en France et l'une des plus grandes même en Europe. L'AG a été co-organisé par 3 gestionnaires forestiers landais bien atypiques. Thomas Tchiboukchian, nous l'écouterons plus tard dans cette émission. Jacques Azera, vice-président de ProSilva, une organisation qui prône une gestion de futaies irrégulières ou forêts jardinées sans coupe rase. Et Eric Castex, également membre de ProSilva, qui nous a accueillis à Alterland, le lieu qu'il a créé à Moustet. Une sorte d'oasis au milieu de cette énorme étendue de plantations. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de ProSilva avec Jacques Azera et nous ferons avec lui une visite d'une des forêts dont il est le propriétaire. Dans cette première émission, nous écouterons plusieurs personnes qui ont participé à cette assemblée générale, venues de différentes régions françaises et engagées dans divers aspects de la filière forêt-bois. Un point commun ? L'envie de participer à la dynamique plus large développée depuis plus de 10 ans par le réseau pour les alternatives forestières qui favorise la mise en place de projets innovants et l'échange d'expériences. Un aperçu certes incomplet, mais éclairant. Pour commencer, écoutons Eric Castex qui nous souhaite la bienvenue à Alterland.
Bon, mais bonjour à tous. J'espère que le repas vous a plu, que tout le monde a fait sa petite sieste, sa récupération. Mais déjà, je vous remercie une fois de plus d'être ici dans les Landes, d'être venu nous voir. Et moi, je vais vous présenter l'association que j'ai créée, qui s'appelle Alterland. Ici, c'est le lieu de l'association, un lieu d'accueil, de formation, de rencontre, disons peut-être pour un monde meilleur, mais en tout cas un lieu d'échange. Quoi dire d'autre ? Mais Alterland, donc, c'est une jeune association à caractère scientifique. On a créé des liens avec pas mal de personnes qui sont formateurs. Je dirais Gérard Dussert, par exemple, qui est venu faire des formations ici sur les plantes bio-indicatrices. Ernst Zurcher, qui est passé plusieurs fois, où on a fait quelques balades. Et voilà, et donc c'est des gens compétents, qui ont des connaissances et qui viennent rencontrer et mettre leur savoir à la portée de tous. Donc Alterland organise ses formations, mais aussi des petites journées, les week-ends, pour... connaître un petit peu notre territoire et la forêt qui s'y trouve, mais aussi regarder un peu plus bas, au lieu de regarder la cime des arbres, regarder le sol et apprendre à reconnaître les plantes bio-indicatrices, puisque les plantes, depuis la nuit des temps, elles nous servent à 3 choses. En premier, c'est nous nourrir, nous soigner et nous indiquer comment est le sol. Donc on fait une petite balade, on regarde ce qu'il y a et puis je choisis une plante, faut être des fois, il n'y a pas de démocratie quoi. Je choisis une plante et puis on la transforme. On la transforme ou en un plat gastronomique ou en un remède médicinal quoi. Voilà aujourd'hui les activités d'Alterland. Tous les ans, habituellement, l'association organise un festival qui s'appelle les rencontres régionales de la biodiversité. Mais depuis 2 ans, on ne le fait pas, parce que c'est un petit peu compliqué pour faire venir les intervenants. Je crois que tout le monde doit comprendre à peu près pourquoi. C'est un peu dommage, mais bon, tout ça, on se le met sur le coude, et puis je pense que bientôt, tout va redémarrer, et qu'on pourra à nouveau se réunir, échanger, se former, et puis passer un bon petit moment de convivialité à échanger, et voilà, quoi.
Alors, Lancelot et Thomas, si je comprends bien, vous êtes tous les deux à l'AG du RAF. Vous venez à peu près du même coin. Et en fait, c'est ici que vous vous êtes rencontrés. Alors, peut-être chacun peut se présenter un tout petit peu. Commençons chez Lancelot, par exemple.
Lancelot, ouais. On s'est rencontrés physiquement ici, mais on était en contact depuis un moment. Donc on vit sur la même commune de Souston. Et moi, je démarre une activité de charpente. Enfin, je travaille, je fais de la charpente depuis déjà un moment. Beaucoup avec des outils plutôt qu'avec des machines. Et j'aime bien... j'adore la forêt et j'aime aussi abattre les arbres avec lesquels je taille des charpentes, même si je ne l'ai pas encore fait beaucoup. Mais j'aimerais aller dans ce sens-là. Donc j'aimerais bien trouver du bois sur pied et l'abattre moi-même ou avec un associé. Ça serait l'idéal, parce que tout seul, ce n'est pas évident. Mais voilà, du coup, comment trouver des forêts, comment trouver des arbres. Voilà. Et c'est là que je pense que Thomas peut m'être très utile.
Alors du coup, moi je suis gestionnaire forestier dans le sud des Landes. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet de gestion privée assez conventionnel, avec une activité associative sur mon temps perso au RAF et à ProSilva. Et puis dans les forêts que je gérais, j'ai essayé de faire pas mal de trucs un peu de gestion douce, donc de la régie naturelle et tout ça. Et puis j'ai quitté ce truc parce que c'était plus assez concret et en accord avec mes valeurs. Et donc j'ai envie en tout cas d'aller vers trouver un moyen d'exercer mon métier assez localement, donc plutôt autour de ma commune, parce que j'ai envie de recentrer un peu mon activité et arrêter. Enfin, en tant que forestier, gestionnaire forestier, on fait beaucoup de kilomètres, donc je trouve que c'est un peu incohérent. Donc j'aimerais bien arrêter tout ça et travailler en local, en circuit court, avec des gens. Enfin, côtoyer dans ma vie professionnelle des gens qui sont proches de moi aussi sur le territoire où j'agis. Et j'ai pensé donc à monter un groupement forestier écologique, citoyen, comme beaucoup se montent en ce moment dans plein de régions. Et ben là, c'est bien parce que je commence à... j'ai créé un site, etc. Et puis je commence à avoir un peu de réseau et je pensais pas que... J'allais trouver quelqu'un du RAF qui serait plutôt dans la filière du coup à transformation, aval, avec qui je pourrais créer des ponts et des liens aussi rapidement. Parce que ça, c'est une question qui vient très vite sur la table. C'est ok, on crée un groupement forestier, si on trouve des forêts, etc. Mais une fois qu'on commence à exploiter du bois en gestion douce, comment on le valorise? Parce qu'on va mobiliser des petits volumes. On va avoir des exigences aussi sur l'exploitation qui sont assez fortes. Donc il faut pouvoir s'entourer d'acteurs et de professionnels de la forêt ou de l'exploitation ou de la transformation qui soient sensibilisés à ces questions-là et qui soient prêts à entendre ces discours-là, ces contraintes et ces cahiers des charges assez, assez lourds en fait. Donc je commence... Peut-être pas le travail dans le bon sens, parce que du coup, ça, je pense que c'était dans un. Je pensais que le faire dans un second temps, mais tout se précipite parce que au fur et à mesure que je parle de mon projet, je rencontre des personnes et j'ai l'impression, c'est ce qu'on disait hier avec Lancelot, c'est qu'on a l'impression que quand on se lance dans un truc, en fait, après les choses s'alignent et puis bizarrement, on rencontre les bonnes personnes au bon moment, quoi.
Donc, ça promet, quoi, en fait. Qu'après cet AG, finalement, le contact est fait. Et donc, vous imaginez la prochaine étape, un peu comment vous allez faire?
Approfondir l'échange. Et puis, moi, je suis très intéressé aussi par la création d'un groupement forestier. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je réfléchissais depuis longtemps à... Moi, j'aimerais beaucoup vivre en forêt et je réfléchissais à comment acheter ensemble de la forêt, quoi y faire, etc. Donc je pense qu'on va pas mal... J'ai entendu en discutant avec Thomas hier que lui, il était bien avancé là-dessus, qu'il avait créé un site internet, qu'il savait qu'il avait beaucoup de contacts, etc. Et du coup, une sorte d'AMAP. Je crois que ça existe déjà, les AMAP bois-bûche, si je ne me trompe pas. Et il me semble avoir vu ça sur le site du RAF. Mais du coup, élargir ça, en fait, on est tous des consommateurs de bois, quoi. Donc, on a tous intérêt à être propriétaires du bois qu'on va utiliser et à être associés à des gens qui sont capables de le transformer localement et voilà, recréer du lien et du sens au niveau local, quoi.
Bon, là, c'est tout neuf, on vient de se rencontrer, mais on a déjà parlé, du coup, d'essayer d'élaborer ensemble une stratégie de prospection à l'échelle locale, vu qu'on est de la même commune. Essayer d'identifier peut-être ensemble ou chacun dans notre coin des forêts qui nous plairaient et puis envoyer des courriers, enfin commencer à travailler vraiment à la construction de ce projet pour acquérir une forêt, une première forêt pas trop loin. Moi j'ai une petite touche là pour acquérir 4 hectares à 50 km, donc c'est quand même pas si proche que ça. Mais on a parlé aussi peut-être d'aller visiter ces parcelles ensemble et puis voilà, c'est le début.
C'est le début.
Ouais.
Mais merci à vous deux. Alors, Matt, Choco et Julien, vous faites partie d'un projet dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle Recrudescence.
Ça a du sens chez nous parce qu'il y a énormément de plantations de monoculture. Du coup, c'est presque un appel à une culture plus diversifiée, quoi. Des plantations, à des arbres, des forêts plus diversifiées, quoi.
Et ça existe depuis quand ? C'est une toute nouvelle initiative.
Recrudescence, ça a 2 ans, je crois, d'existence administrative. Mais ça fait 3-4 ans qu'on en discute. Ça a pris du temps de discussion, de se rendre compte autour de nous ce qui nous embêtait, de se mettre ensemble, de discuter qu'est-ce qu'on avait envie de faire ensemble, et puis ensuite de faire une forme juridique, quoi.
Trouver le nom, ça a été long aussi.
C'est compliqué.
Et vous êtes combien, en fait ? À peu près, derrière cette initiative ?
On doit être une quinzaine actifs, et après on a pas mal de sympathisants, mais à faire des réunions, on est une quinzaine, je pense, et des fois moins. Quand c'est plus intéressant, plus, évidemment. Quand il y a des formations, par exemple, il y a plus de monde, mais... Et c'est très local, c'est ultra local sur quelques communes.
Et c'est surtout des gens qui étaient déjà impliqués d'une manière ou l'autre dans la filière Forêt-Bois, on pourrait l'appeler, ou plutôt pas du tout, ou comment ?
Il y a toutes sortes de profils, je pense. Il y a des gens qui étaient déjà dans la filière bois, il y en a qui travaillent le bois. Dans la filière bois, en fait, non, pas vraiment. Quoi.
À la fin de la filière, quoi. Il y avait des constructeurs, si on veut parler en professionnel, quoi. Mais sinon, non, je crois pas qu'il y avait des gens...
Ouais, je crois savoir que Julien, tu es aubiniste, non ?
Oui, c'est vrai, ça. C'est la filière bois, ça ? Oui, ouais, c'est bon. C'est les derniers, presque, de la filière bois. Et bah oui, je suis aubiniste et en arrivant dans cette région, je voulais travailler des beaux matériaux et il y en a, mais il faut pouvoir avoir accès et c'est pas toujours facile. Mais... Et pourtant, c'est souvent dit que le Livradois, il n'y a pas beaucoup de beaux bois, c'est du Douglas, c'est des plantations, des épicéas. Et en fait, finalement, il y a quand même des beaux feuillus, des beaux résineux aussi d'ailleurs. Et c'est essayer de reconnecter tout ça pour que je peux avoir des clients qui sont très, très demandeurs de ça.
Ils veulent savoir d'où vient le bois, c'est ça ?
Voilà. Savoir d'où ça vient, si ça a été bien géré... Et ils sont capables de payer le prix honnête pour ça.
Et peut-être tu peux expliquer, en fait, la partie, si tu fais ébénisterie, c'est quand même c'est des choses assez développées. Enfin, il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est des objets qui ont pas mal de valeur, quelque part. Donc, en fait, le bois, en fait, n'est une petite partie, en fait, pourcentage, non, de la valeur.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est clairement, moi, le bois, il pourrait augmenter. Ce qu'il fait d'ailleurs en ce moment, mais je veux dire, si je serais prêt à payer le bois plus cher, parce que sur le prix à la fin, même si je le répercute, ça se sentira très peu sur le prix final. Et moi, ça m'intéresse vraiment, et les clients aussi, de payer le prix juste. Et ça, enfin voilà, c'est possible pour moi, c'est pas possible pour. Enfin, c'est moins facile pour d'autres filières, les charpentiers. Ça se ressent plus sur le prix final. Il faut vraiment avoir une volonté, une éthique plus forte. Alors que moi, finalement, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une filière quoi, qui existe peu, pas. Bon, après, j'ai pas beaucoup de volume, pas besoin de beaucoup de volume, donc ça peut être rapidement. Je peux rapidement arriver à gérer ça.
En fait, le but, c'est de faire en sorte que chacun qui travaille dans cette filière, le bûcheron au début et toutes les différentes étapes, ils sont payés correctement, en fait.
C'est exactement ça, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a du savoir-faire et qu'il y a souvent des gens qui travaillent bien, mais qui ne peuvent pas travailler bien. Parce qu'on leur donne pas la possibilité et ça peut exister, ouais.
Mais si j'entends un peu, c'est une zone. Est-ce que c'est une zone où il y a une tradition forestière? Est-ce que c'est plutôt il y a quelques régions en France où ça bouge pas mal, Limousin, le Morvan, peut-être en Dordogne, parce qu'en fait il y a vraiment un massacre, on pourrait dire, des forêts, enfin des coupes rases partout. Est-ce qui pousse des gens à réagir?
Oui, c'est plutôt ça. C'est de voir des scènes brutales de coupes. Avec des machines énormes et en une journée, tu passes sur un chemin que tu connais. En fait, l'hectare, le lendemain, il est par terre. Je pense que ça nous... On était choqués, quoi. Et puis, du coup, l'assaut, c'est pour mettre un pied dans ce jeu forestier. Pas juste pour parler, pour dire, en fait, OK, nous, on trouve ça brutal, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de faire qu'on peut proposer? On voulait essayer, quoi, aussi, parce qu'on aime bien expérimenter des choses, je crois. Et pas faire les donneurs de leçons théoriques, quoi.
Et ça se traduit comment? Enfin, les activités que vous avez pu développer?
Pour le moment, c'est un peu le début. Donc, on est dans la phase d'acquisition. Donc, on a réussi à obtenir, à acquérir des hectares de bois. Et la volonté, ouais, c'est de faire une... Comment on pourrait dire? Il y a toujours la volonté d'exploiter un peu le bois, mais de façon beaucoup plus douce, d'éviter la coupe rase et de diversifier les essences d'arbres. Pour, à la fois pour le paysage, à la fois pour la forêt en elle-même.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même trois sortes, par exemple, de peuplements qu'on peut acquérir. Des peuplements qui sont spontanés, qui sont assez vieux, enfin, qui ont 50, 80 ans, des choses comme ça. Et ça, c'est clairement un peu quelque chose... qu'on peut préserver facilement, il y a déjà quelque chose, il y a beaucoup de biodiversité. Et après, sortir du bois de ça, selon les conditions, ça peut être assez facile. Enfin, en tout cas, à imaginer. Après, techniquement, c'est une autre chose. Et il y a les friches, c'est-à-dire les coupes rases, après coupes rases, quand on peut avoir accès à acheter ces parcelles-là. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que ça vaut pas beaucoup d'argent. Et puis en plus... ça intéresse pas grand monde aussi. Et le troisième, moi c'est celui-là qui m'importe le plus, c'est les plantations. Il y a que des, ça c'est énormément de plantations parce que l'historique, en fait, finalement, c'était pas, il y avait pas très peu de forêts dans ces coins-là.
Plantations résineuses.
Oui, essentiellement d'épicéas avant, maintenant du Douglas, encore d'épicéas qui est en train de crever. Et tout ça, justement, comment on fait pour transformer ça sans passer par obligation de coupe rase, parce qu'on a tout raté et on va recommencer, alors qu'en fait il y a déjà quelque chose qui a été tenté. Tout ça c'est du vivant, tout ça c'est du carbone, et peut-être que ça peut être bien pour l'étape d'après. Et c'est en même temps ultra compliqué, mais j'ai l'impression que c'est compliqué à expliquer aux gens et à convaincre les gens, plutôt que compliqué vraiment dans le travail réel après en forêt, quoi. Même si c'est quand même beaucoup de travail, l'exploitation forestière. Il y a beaucoup d'imaginaires à déconstruire, ouais.
Ça veut dire que c'est pas mal de recherche d'expérience de d'autres, peut-être, ou de faire des formations, parce que si vous venez pas vraiment du métier, comme on dit, faut quand même quelque part se former, j'imagine. Donc vous organisez quelque chose dans ce domaine-là?
Cette année, on a commencé une formation en gestion en sylviculture à couvert continu, quoi, avec une personne qui est administrateur au RAF. Et en fait, on a eu des sous aussi par le département, on a eu une subvention. Et du coup, en fait, on paye cette personne pour se former. Il vient trois fois, deux jours, pour nous donner un peu des bases, quoi, et nous apprendre à regarder nos forêts, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et pour l'instant, on en est là. On en est là à faire nos inventaires et ensuite faire un plan de gestion, enfin réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, il y a plein de parcelles différentes. Du coup, sur cette dizaine de parcelles qu'on a pour l'instant, c'est déjà 10 scénarios différents qui peuvent exister.
Tout ça sur 2-3 communes, alors. Très, très localisé.
Peut-être un peu plus que 2-3 communes, mais dans tous les cas, ouais, sur un pays très localisé, ouais.
Mais 20 km de rayon, on peut imaginer, mais par contre avec une altitude qui va de 1000 à 400 mètres d'aile, enfin 400 à 1000, et du coup énormément de différences sur les sols, le climat, les expositions, et donc les peuplements aussi.
Et on n'est pas aussi pour une forêt totalement sous bulle, quoi. Parce que justement, comme on le disait, il y a différents métiers qui exploitent, enfin, le mot exploiter je l'aime pas trop, mais qui se servent, qui utilisent ce matériau. Donc du coup, on est pour une gestion tranquille et un paysage plus cool aussi. Et la notion, moi c'est peut-être que je suis le seul à partager, enfin, je trouve la notion de paysage est importante aussi. Quoi. Proposer autre chose et que des grandes plantations de Douglas très sombres, toutes droites, sans vie.
C'est aussi remettre du collectif des biens publics en quelque sorte, parce que le public c'est en train de bradé à fond, et donc trouver le moyen d'avoir des choses en collectif. On a choisi l'association parce qu'il y avait la possibilité de faire un groupement forestier. Et nous, on a choisi de l'association pour que ça soit vraiment à personne et à tout le monde en même temps, et que ça soit pas, on le sorte de la propriété, vraiment un des seuls schémas qu'on a, la propriété, où c'est une ou plusieurs personnes qui ont vraiment beaucoup de pouvoir, et là, ça peut être un peu tout le monde.
Ben, sur ce truc de la propriété collective, là, il y a la question, c'est pas Recrudescence qui gère ça sur le territoire, mais les sectionaux qui étaient des bois qui étaient pour les hameaux, avec le droit d'exploiter pour les habitants des hameaux, qui aujourd'hui vont plutôt passer en bois communaux, visiblement, ou voire être vendus, en fait, du coup devenir privés. Et ça, c'est une question qui nous intéresse aussi. Il y a des gens dans l'assaut qui ont eu des gros débats et avec leurs cohabitants de hameaux sur la gestion des sectionaux. Enfin, ça... Il n'y a pas que Recrudescence, en fait. Il y a plein de gens qui s'interrogent et qui ne sont pas toujours du même bord, mais ça, qui travaillent fort, enfin, dans le débat et après dans le faire aussi, quoi. Notamment la petite scierie locale qui vient d'être vendue. Et du coup, il y a un des scieurs qui est un élu à la mairie aussi, quelqu'un maintenant avec qui on discute, mais a priori, on n'était pas forcément en discussion avec ces personnes-là. Enfin, c'est vachement enchevêtré, cette filière, et... Ça, c'est assez chouette aussi de voir ce que ça fait au niveau social.
Il y a une autre asso qui existe qui a acheté une scierie mobile. Et donc, on a des parcelles, nous, du coup, et on commence à réfléchir à peut-être faire des chantiers pour sortir du bois et scier le bois. Et ça, question visibilité, je pense que ça va beaucoup, ça va apporter par rapport à d'autres projets qu'on a entendus qui ont été faits comme ça. Ça amène beaucoup de gens, beaucoup de discussions. Et...
D'accord. Et. Vous êtes depuis quelque temps en relation avec le RAF ?
Avant Recrudescence, je venais déjà dans les AG du RAF ou les événements qui étaient proposés par le RAF. Et justement, on s'est un peu servi de toute cette énergie et de cette expérience partagée par d'autres groupes qui faisaient des projets. Et puis surtout, d'être motivé en disant « mais il y a moyen de faire quelque chose, on n'est pas dingue, ou alors on est plein de dingues, mais bon, allons-y quoi ». Et du coup, on a au tout début de Recrudescence, qui ne s'appelait pas encore Recrudescence, on est venu à une AG, à un groupe, pour justement se dire « vas-y, on va voir ça, et après on retourne chez nous, et qu'est-ce qu'on fait quoi ?»
Ben merci. Hein. Alors Jules, toi tu es, pour peut-être pas beaucoup de temps encore, mais en tout cas, genre coordinateur ou responsable des programmes de formation à Carmégène, qui est un... Tu vas nous expliquer c'est quoi Carmégène et c'est quoi cette formation qui a une certaine relation quand même avec le RAF depuis le début.
Alors oui, donc moi je suis responsable de formation niveau BTS, gestion forestière. Donc, qui a ouvert cette année à Carmégène. Donc, la première promo vient de sortir en fait. C'est une formation, on a deux types de formations, une qui se fait sur un an, une qui se fait sur deux, et qui est aussi en lien avec une autre formation qui est plutôt historiquement ancrée aussi à Carmégène, qui est un brevet professionnel de responsable de chantier forestier, avec l'intitulé en éco-gestion. Et c'est quelque chose, voilà, c'est des valeurs qu'on essaye de porter aussi au niveau du BTS, donc du niveau technicien. Afin de qualifier des personnes à la fois de terrain et à la fois des techniciens qui soient sensibles aussi à ces questions en cours de multifonctionnalité de la forêt, de respect de la biodiversité, qui traite les enjeux aussi sociaux et économiques évidemment. Mais on a essayé de construire un programme pédagogique qui croise un peu ces différents regards et ces différents enjeux. Et je pense que c'est aussi ce en quoi on peut être en lien avec le RAF d'une certaine manière.
Ce que j'ai toujours trouvé intéressant à Carmejane, c'est une approche non hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, on a pas les bûcherons un peu en bas de la chaîne, à la limite, et des gestionnaires et des bardeurs. Fait que chacun va essayer de comprendre les différents aspects et maîtriser tout ça, quoi.
Oui, exactement. Ben, c'est ce qu'on fait sur la formation pour les responsables de chantiers forestiers. C'est-à-dire qu'on a une approche de terrain qui est essentielle et très importante dans la formation. Mais il y a aussi une approche de connaissance des milieux. Donc il y a tout un pan de la formation qui est consacré aussi au diagnostic forestier. Donc pour réfléchir et puis travailler sur des pratiques qui soient respectueuses des milieux. Et à l'inverse, quand on forme des techniciens forestiers, on les emmène en forêt dès le début d'année pour réaliser des opérations d'abattage, pour qu'ils connaissent aussi ce que c'est le métier de terrain et qu'ils se rendent compte aussi de la difficulté et qu'ils arrivent à calibrer aussi leurs attentes de manière cohérente avec ce qu'un homme est capable de faire.
Je crois qu'il y a aussi une tentative de au moins faire comprendre la réalité de l'aval, quoi. Enfin, les différentes utilisations de bois, enfin les scieries ou autres. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois qu'on coupe?
Oui, bah c'est ce qu'on fait au niveau du BP, responsable de chantier forestier. Il y a une période de formation. En fait, on essaie de valoriser un circuit court, de l'exposer et de le vivre sur le temps d'une ou une à deux semaines. On fait venir un scieur mobile. On fait venir aussi un débardeur à traction animale qui vient avec deux chevaux. Et voilà, et cette année aussi, enfin depuis l'année dernière, il y a le centre de formation, il est équipé d'un câble mât court, ce qui permet aussi de montrer des opérations d'exploitation en forêt qui sont peu impactantes au niveau des sols et qui permettent aussi d'exploiter des conditions dans des conditions de pente et d'accès très, très complexes. Et ce bois, en fait, après, le bois scié, il est stocké, puis il est traité directement sur site pour faire de la construction de auvents, de mobilier. Donc voilà, on va couper le bois en forêt derrière le centre de formation, en forêt communale. Il est sorti, scié sur place et mobilisé sur place.
Combien de personnes sont formées chaque année?
Alors en moyenne, le BPRCF, on va être sur une dizaine de personnes, peut-être un peu moins de 10, 9 je crois de mémoire. Et puis sur le BTS, donc les BTS en un an, ils sont 8. Et les BTS apprentis en 2 ans, eux, ils sont une dizaine. Donc c'est-à-dire, voilà, on arrive à une 26 personnes à peu près formées chaque année. Plus, il y a aussi une autre formation qui a un niveau académique, on va dire en dessous du BPRCF, qui est le BPA Travaux Forestiers. Donc là, c'est vraiment, on forme des personnes à être opérateurs de terrain. Mais l'objectif, c'est de leur donner un niveau diplôme qui les fasse progresser vers un BPRCF pour qu'il y ait aussi une meilleure qualification dans le monde du travail aussi à la suite, quoi.
J'ai aussi remarqué que pas mal de stagiaires, enfin des personnes formées à Carmejane, ils passent parfois chez les lieux liés au RAF pour poursuivre une formation un peu vraiment sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que vous encouragez à ce qu'il y a ça, qui continue parallèlement avec après la formation?
Après, ça c'est des choses qu'on fait de manière un peu informelle avec les élèves. En fait, on a pas mal de personnes qui viennent déjà se positionner sur la formation, tant du niveau BPRCF que BTS, parce que c'est une formation qui est mise en avant par le RAF. Donc ils viennent chercher cette approche. Et en parallèle, on a des personnes qui viennent chercher donc ces compétences techniques ici et qui vont après dans des stages du RAF pour chercher des spécialisations plus ou moins particulières sur la construction bois, par exemple. Parce que voilà, on a souvent des personnes qui ont des volontés de développer des circuits courts sur les territoires plutôt en région PACA ou région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc nous, on communique là un peu là-dessus pour les engager à continuer.
Merci. Je vous rappelle que vous êtes en train d'écouter la 30e émission dans la série Entre Cimes et Racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières, le RAF. Nous sommes à son assemblée générale qui a eu lieu début juillet dans les Landes. Écoutons Daniel Ponce, retraité depuis peu de l'Office national des forêts et fortement engagé dans la lutte dans les Pyrénées contre un méga projet de scierie.
Ce qui a fait bouger les gens, en fait, c'est plusieurs éléments. D'abord, ça a été le volume qui a été annoncé par le scieur, 50 000 mètres cubes de bois scié au portail de l'usine. Donc ça voulait dire, dans l'absolu, un volume de bois qui a été coupé entre 400 000 et 540 000 mètres cubes de bois. Donc c'était totalement énorme. Les scieries sur les Pyrénées, bon, je pense que les plus grosses doivent, si, les quelques plus grosses, je crois qu'en Occitanie, la plus grosse doit faire entre 35 000 et 40 000 mètres cubes. Et le maillage territorial sur les Pyrénées, sur la partie Piémont, c'est des scieries qui sont autour de, entre, on va dire, 3 000 à 4 000 mètres cubes, je crois 15 000, pas plus. Et là, ce truc-là, ça a été énorme. Donc ça, c'était un des premiers éléments. Les autres éléments, ça a été, qui nous a beaucoup surpris, c'était le sujet de la forêt, le sujet de la montagne, qui est très fort sur les Pyrénées, et l'identité des Pyrénées. Et c'est ces trois éléments conjugués qui ont fait qu'en quelques mois, là, il y a eu une émulation, on va dire, populaire, citoyenne, qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement un an après le début de la lutte, il y a 47 organisations qui se sont ralliés pour essayer de porter la lutte. Dans ces organisations, il y a à la fois des partis politiques, des collectifs comme SOS Forêt Pyrénées, des associations de protection de la nature. Voilà, c'est tout ce monde-là en fait, qui s'est conjugué pour essayer de peser dans la bataille. Petit à petit, quand on a commencé à batailler, un des premiers éléments qu'on a mis en place, c'est pour alerter la population, les citoyens, c'est de proposer des réunions publiques. Donc là, en l'espace de 3-4 mois, là, dans l'été de l'année dernière, en fait, on a fait 5 réunions publiques, donc depuis Bayonne jusqu'à Foix, et on a touché environ 1500 personnes. C'est-à-dire à la fois, on avait 250, 300, jusqu'à 400 personnes. Et donc on a organisé cette réunion publique, c'est-à-dire plutôt que de faire un monologue avec une seule personne, on a développé 4 thématiques. Ça qui a été énormément apprécié, une thématique sur la biodiversité où il y avait une personne qui parlait pendant 10 minutes et ensuite après il y avait un temps de questions-réponses. Après un second temps c'était sur la ressource bois dans les Pyrénées qui est un enjeu parce que là il y a une énorme problématique autour de ça, pour certains elle y est, pour d'autres elle n'y est pas. Le troisième élément c'était la filière bois. C'est-à-dire comment l'écosystème sur la région Occitanie et en particulier dans les Pyrénées. Et la quatrième thématique, c'était le sujet de la démocratie locale. C'est-à-dire comme ce projet-là avait été tenu en souterrain pendant des mois et des mois, et que donc même les élus locaux, etc., personne n'était trop au courant de ce qui se passait. Donc là, on a vu un déficit de démocratie, ce qui fait qu'on en parlait pour contester ce qui s'était mis en place. Et donc ça, ces éléments-là ont été appréciés et du coup, la presse locale a commencé à en parler, la presse régionale, et après, petit à petit, à partir du mois d'octobre, la presse aussi nationale, que ce soit des radios ou des grands journaux, de grands médias. Nous, assez rapidement, on a voulu essayer de concrétiser un peu cette émulation. Et donc, on a mis en place une grosse manifestation qui a duré 2 jours, le 9 et le 10 octobre de l'année dernière, et où on a eu à peu près 2500 personnes qui sont venues. Et donc, là-dedans, on a créé des ateliers, on a fait des points info presse. Et donc ça a eu une résonance énorme quoi. Le collectif il a deux buts. Le premier but c'est d'arriver à repousser, éliminer ce projet d'implantation de méga-scierie. Et le second but c'était de proposer une vision alternative à la filière bois en place. Donc ce que nous on a appelé une ambition alternative. Donc du coup, durant l'hiver là, 2020-2021, on a commencé à y travailler. Bon là, on a eu des problématiques avec le confinement, etc. Enfin, un peu comme tout le monde. Et on a commencé à rédiger, on a fait un premier jet qui n'est pas terminé et donc qui est parti d'une problématique qu'on retrouve sur toutes les Pyrénées centrales, c'est que les menuisiers, les ébénistes n'arrivent pas à trouver du bois feuillu local. Donc dans le collectif, on a deux jeunes menuisiers qui commencent à travailler sur la mise en place d'un atelier de menuiserie collectif, avec la difficulté de trouver un local. Pour le moment, c'est ça. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais comment on va faire pour alimenter ce collectif, cet atelier, avec du bois local? Et donc c'est là où je suis particulièrement intervenu, où j'ai relaté toute l'expérience que j'avais fait depuis ces dernières 15 années dans le cadre de mon travail professionnel, c'est-à-dire de proposer à la vente du bois façonné bord de route dans un certain nombre de forêts communales. Et donc du coup, ce modèle-là permet de trier le bois en amont, en petits lots, et ensuite il est proposé à la vente par un appel d'offres à des scieurs ou des menuisiers, etc. etc. Et donc ça nous apparaît intéressant comme une première concrétisation d'une filière possible. Quoi. Ouais. comme ce sont des taillis sous-futés, il y a énormément de diversité au niveau des essences. Donc on a des gros bois de chêne, des bois moyens, des petits bois, on a du hêtre, du merisier, du frêne, du châtaignier. Donc c'est cette diversité des essences, diversité du volume, qui fait qu'on arrive à faire des petits bois et qui peuvent intéresser des menuisiers ou des scieurs. C'est ça le petit bois. Je pense que le lot le plus important que j'ai dû faire, tout à fait au début quand j'ai commencé, c'était l'ordre de 100 mètres cubes de bois. Mais c'était exceptionnel. Et après, j'ai vu que j'ai tourné de 5 mètres cubes à, je crois que le plus gros faisait 25 mètres cubes, quoi. En gros, il faut au moins qu'il y ait un camion. Là, en gros, pour que le gars puisse acheter, pour se dépasser, s'il n'y a pas de camion, c'est difficile, quoi.
Tu parlais avant de démocratie locale. J'aimerais que tu racontes les idées que vous avez sur les conseils de vallée.
Ouais. Donc, dans ce volet de la mission alternative, il y a une partie politique. Et on a imaginé qu'on pourrait reprendre la main sur la destination du bois local en imaginant donc la mise en place d'un conseil de vallée. Alors historiquement, dans les Pyrénées, alors donc là, on remonte avant la Révolution, alors je ne veux pas être passéiste, mais bon, c'est un fait établi, il y avait la gestion des biens communs ou des ressources communes était faite par un conseil de vallée. Donc en gros, ils géraient les estives, l'eau et peut-être les forêts. Et donc pourquoi ne pas revenir à cette idée d'un conseil de vallée où voilà, donc il y aurait toujours parce que les estives sont toujours gérées collectivement, l'eau peut-être un peu moins, mais bon, j'en suis pas sûr. Et pourquoi ne pas mettre aujourd'hui la forêt là-dedans? Et donc ce qui ferait que on pourrait avoir une idée du volume qui va être exploité d'une année sur l'autre, une fois qu'on a les essences, on peut estimer le bois d'œuvre, le bois de chauffage. Et donc, on aurait au bout de chaque vallée une plateforme qui récupérerait le bois et sur lequel il serait scié et que l'on pourrait dessiner à des ateliers de sciage, de transformation pour les menuisiers, quoi. Donc, on a créé une association. Alors, qui s'appelle À fond pour la forêt des Pyrénées, dont la finalité est une gestion administrative du collectif par rapport au financement. On a écrit une charte, donc sur le site, touche pas à la forêt Pyrénées. Et un autre élément qui a intervenu aussi, c'était l'apport des forestiers. Enfin, parce qu'on est très peu de forestiers vraiment engagés, on doit être, je crois, 4-5, hein, pas plus, quoi. Et avec donc une connaissance de la forêt au sein de la sylviculture, au sein de la gestion forestière, au sein de l'histoire forestière. Et là, pour beaucoup de gens aussi, ça a été une découverte de se dire que beaucoup de gens, en fait, imaginaient que la forêt était des espaces protégés, vierges, toute intervention. Là, l'énorme surprise de s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas, quoi. Il y a une histoire dans la forêt des Pyrénées, c'est incroyable, quoi. Et donc, le fait d'être forestier, voilà, ils ont commencé à poser des questions, donc on a répondu. Petit à petit, j'ai inventé, ça s'est fait comme ça, quoi, un peu au jour le jour, un atelier que j'ai appelé « Apprendre la lecture de la forêt ». Et à chaque fois, il y a 20, 30, 40 personnes qui viennent. Donc on fait ça à côté de l'endroit où on fait la manifestation. Donc moi, je vais voir la forêt 2-3 jours avant pour me rendre compte de quelle est la forêt cette forêt-là, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Et ensuite, je fais un circuit où je pars souvent de la partie la plus ancienne pour remonter à la partie la plus actuelle. Et alors des fois, c'est, même pour moi, c'était en tant que forestier où j'étais habitué à des forêts bien gérées, avec des archives, etc., etc. Je pouvais vous raconter la forêt sur 300 ans, mais là, rien du tout. Tout se fait à l'observation. Ce que disait hier Jacques Azora, ça se fait à l'observation. Et c'est super intéressant. Et là, même pour moi, c'est une richesse, une découverte. Enfin, je sais pas, j'y trouve un plaisir, un certain bonheur, faire cet apprentissage de la lecture. Et des gens viennent vous voir après. Oh, on est surpris de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, quoi. Et c'est super intéressant, c'est super, super riche, quoi.
Donc Anne, toi tu viens de Sète, oui. Pour cet AG, et toi tu as une activité très particulière. Il y a la filière bois, peut-être tu peux te présenter.
Ouais, donc je suis charpentière de marine, je suis basée à Sète. Donc je restaure, je répare des bateaux en bois, donc des bateaux traditionnels.
Ça nécessite un certain type, une certaine forme de bois?
Moi, j'ai besoin de bois qu'on appelle tor, c'est-à-dire des arbres qui ont poussé tordus. Je travaille avec des courbes et j'ai besoin, pour certaines pièces, que le bois soit déjà courbé avec la courbure dont j'ai besoin pour ma construction.
Traditionnellement, J'imagine que c'était beaucoup recherché, peut-être dans des forêts du coin, mais après, maintenant, ça marche comment actuellement l'approvisionnement en bois ?
Bah avant, oui, c'était facile. De toute façon, les embarcations, elles sont toujours par rapport à ce qui existait localement en bois. Je sais qu'à 7, moi, ça m'arrive de retomber sur des embarcations qui ont été faites en platane, mais c'était aussi du chêne vert, du pin pour d'autres parties. Et souvent, les charpentiers avaient leurs fournisseurs, leurs bûcherons. Ils allaient chercher ensemble les bois en forêt. En fait, la particularité des pièces dont on a besoin, c'est que souvent, on a des gabarits et on va chercher en forêt les courbes exactes dont on a besoin. C'est-à-dire, on regarde les arbres, on dit « Ah bah, telle courbure, ça va me servir, quoi. » Donc ça, c'était ce qui se passait idéalement avant. Moi, à mon échelle, j'ai pas encore le réseau du tout pour faire ça, mais c'est pour ça que je m'intéresse un peu plus aux forêts et aux RAF. Moi, à mon niveau, je vais bêtement chez le fournisseur de bois qui est à 7, mais qui a souvent du bois déclassé qui est tordu, donc il vendra pas lui dans ses clients habituels. Et du coup, en fait, il me laisse fouiller un peu dans son tas et on s'arrange comme ça. Mais c'est pas évident de trouver les bonnes courbes et ça arrive qu'on passe finalement sur du lamellé collé, par exemple, mais c'est pas du tout agréable à travailler.
En fait, c'est des bois qui, en général, sont autrement pas valorisés.
En ce moment, oui, oui, oui. Avant, c'était naturel de les garder, et maintenant, ça ne l'est plus. Évidemment, quand on va au fournisseur, on trouve que des bois tout droits.
Et toi, en venant à l'AG du RAF, on est en contact avec le RAF en général. Tu espères quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu cherches ?
Ben, j'espère rencontrer des gens qui sont dans le réseau bois, dans la filière bois. J'ai aussi un questionnement éthique sur la provenance de mes bois, mais bon, je suis vraiment au début je commence à creuser un peu tout ça. Et idéalement, dans les prochaines années, là, j'aimerais pouvoir faire un réseau local où je puisse m'approvisionner en bois dont je connais la provenance exacte et évidemment locale, quoi.
Peut-être une dernière question. On remarque qu'ici, à l'AG, il y a beaucoup de charpentiers. Charpentières, vraiment beaucoup. Et il y a aussi des chantiers de charpente collective qui se font assez régulièrement, par exemple de charpente manuelle, parfois 60-70 personnes qui se mettent ensemble. Il y a aussi eu une rencontre de charpentières, des femmes charpentières. L'année dernière, le RAF a participé. Est-ce que ça existe au niveau des charpentiers ou charpentières marines, qu'il y a une espèce de, je ne sais pas, une association, ou est-ce que tu as des collègues avec qui tu aimerais faire ces recherches ensemble ?
Moi, j'ai fait une formation à Douarnenez pour passer mon CAP de charpentier de marine. Donc, on est resté très, très en contact. On est vraiment devenus des bons amis. Donc, on reste en lien. Moi, je me suis mise à mon compte depuis. Ça m'arrive que des collègues viennent travailler un peu avec moi. Mais on n'est pas organisé en réseau officiel. Enfin, c'est vraiment des affinités et des amitiés qui font que, de temps en temps, j'en appelle quelques-uns, savoir s'ils sont dispo, s'ils peuvent venir travailler un peu avec moi. Pour l'instant, c'est vraiment que comme ça, quoi. Moi, ça fait pas longtemps que j'essaye de comprendre un peu mieux ce qui se passe avec les forêts, le circuit du bois et tout ça, mais je suis vraiment contente qu'il y ait des gens qui aient déjà réfléchi à tout ça il y a longtemps, pour que le RAF et d'autres associations existent maintenant et que je puisse, moi, au moment où je me pose des questions, trouver des réponses.
Et merci. Alors Emmanuel, tu es déjà d'abord impliqué dans un groupement forestier et ensuite tu es allé bien plus loin parce que c'est toute une histoire de mettre en place une plateforme ou un mécanisme pour essayer d'aider d'autres à créer des groupements forestiers. Donc peut-être d'abord pour commencer, tu viens d'où enfin et c'est quoi ce groupement forestier que, avec d'autres j'imagine, vous avez créé ?
Donc je suis gérant du groupement forestier citoyen Loupicato. Nous, on est en Dordogne, donc dans le Périgord vert. L'idée de ce groupement, c'est de réagir suite aux coupes rases et de faire en sorte de protéger des forêts diversifiées auxquelles on tient et auxquelles on aime bien se promener et bien profiter de ces endroits de nature. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le projet. On a maintenant 35 hectares et on est 80 associés. Et donc dans mon travail de gérant, j'ai plein de procédures administratives qui sont assez prenantes et assez complexes. Donc j'avais un besoin de les stocker et de les expliquer quelque part. Donc c'est ce que j'ai fait en rédigeant toutes ces feuilles de procédure. J'ai envie de les partager et maintenant on a créé une plateforme qui s'appelle InfoGFC et qui est une plateforme d'aide à la création et à la gestion de groupements forestiers citoyens. Donc dessus, il y a beaucoup de choses, il y a plein d'informations administratives, des démarches administratives, il y a des tableaux de gestion, il y a des documents préécrits, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir dupliquer ce modèle-là, pour pouvoir créer un maximum, en tout cas en créer un petit peu partout sur nos territoires.
Si j'ai bien compris, tu n'es pas vraiment du monde forestier et tu gères un groupement forestier et citoyen, c'est assez étonnant. Donc toi, tu as dû apprendre pas mal de choses.
Je suis informaticien, moi. Je suis plus dans l'informatique. Dans le dessin animé, très précisément. Et dans le dessin animé, on gère beaucoup de données, beaucoup d'informations. Et dès que ça devient trop récurrent, on automatise les choses. Et donc, c'est ce que je fais avec le groupement forestier. J'ai de la gestion informatique, j'ai de la gestion de données, j'automatise les éléments. Et j'avais envie de le partager, faire en sorte que, certes, défendre la biodiversité, défendre les forêts, il faut des connaissances en forêt. Mais la gestion administrative, ça reste de l'administratif. Et j'avais envie d'aider les gens à pouvoir se faciliter la tâche dans la gestion et pour qu'ils puissent passer peut-être plus de temps aussi en forêt.
Parce que là, déjà avec le Picato, ben j'imagine qu'il y a une équipe quoi, administrative, informatique, mais aussi quand même des gens qui savent un peu gérer des forêts, qui savent voilà, comment analyser une forêt, etc. Donc comment vous avez mis en place l'équipe un peu?
C'est des citoyens de tous bords. Il y a des artisans, il y a des gens de tous milieux. Certes, on est entouré de personnes qui ont des connaissances en forêt. Il y a un ingénieur forestier, il y a des sylviculteurs, il y a des ethnobotanistes, des naturalistes. Il y a tous ces gens-là qui sont pleins de connaissances. Après, dans le bureau, donc on a constitué un bureau qui est d'à peu près 8 personnes qui prennent des décisions sur la gestion, le déroulement des différentes procédures d'achat. La première volonté du groupement forestier, ce qu'on appelle les groupements forestiers citoyens, c'est pas forcément la première idée, c'est pas forcément de faire de la sylviculture et de la vente de bois. C'est de pouvoir reprendre un peu la main sur les décisions au niveau de la gestion forestière sur notre territoire. On n'est pas tellement écouté par les élus, on n'est pas tellement écouté par la filière. Hein. Et l'idée, c'est de créer une micro-société. Donc, le groupement forestier est une société civile, où on fait les choses nous-mêmes, par nous-mêmes. Et en faisant ces choses-là de façon positive, on est dans le faire, hein, on détient du foncier, on va développer une sylviculture douce. On est dans la démonstration, on est dans la démonstration positive, et ça donne un peu l'exemple. Donc on n'est pas dans le militantisme, où on essaye d'alerter les élus sur la mauvaise gestion des forêts, sur la surexploitation. On est dans la démonstration. Et au final, ça intéresse les gens viennent vers nous, ça influence aussi les propriétaires privés qui eux aussi ont envie de bien gérer leur forêt, entre guillemets, même si des fois, souvent il n'y a pas besoin de la gérer. Mais c'était pour reprendre un petit peu la main sur l'avenir de notre territoire et de nos paysages.
Est-ce qu'il y a aussi un élément de relation avec ce qui resterait ou ce qu'il faudrait peut-être recréer d'une filière bois locale?
Oui, ça se met en place tout seul. On a la chance qu'il y a des professionnels du bois qui s'installent, qui se mettent en relation avec nous. Donc nous, on est propriétaires forestiers, on est propriétaires de bois. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on va leur vendre du bois sur pied et il y aura une transformation locale. Parce que le bois, il faut qu'il reste localement et qu'il puisse alimenter les différents artisans. Donc on a un scieur mobile qui vient de s'installer. On a des bûcherons, on a un sylviculteur, on a des menuisiers. Et il y a une petite énergie qui se met en place, sans que nous, on soit acteurs de tout ça, mais tout ça se met en place tout seul par l'action d'acquisition du groupement forestier. Et on va pouvoir défendre à la fois la sylviculture de qualité, la production de bois de qualité et l'artisanat. Et c'est assez important parce que quand on voit qu'il y a, beaucoup d'artisans chez nous qui ne trouvent plus de bois, ou en tout cas plus de bois adapté à leur activité. Et se dire qu'on arrive à développer une activité éthique qui arrive à leur fournir le bois localement et de qualité, c'est une action qui nous motive beaucoup, qui est très satisfaisante.
Pour revenir sur la plateforme que tu as créée, avec d'autres peut-être, mais est-ce qu'on peut dire que ça a déjà eu un impact ?
Oui, il y a deux nouveaux groupements forestiers qui viennent de se créer. Donc un qui s'appelle le groupement forestier citoyen L'Escuro, et un autre groupement forestier normand, qui est du côté de Caen. Donc il y a déjà un impact. Il suffit de prendre contact avec moi ou d'aller sur la plateforme groupementforestiercitoyen.fr. Ça s'appelle InfoGFC. Et il y a tous les fichiers d'aide. Il y a tout pour faire. Il n'y a plus qu'à. Il faut déjà au préalable avoir quand même un groupe local soudé qui a envie de porter ce groupement forestier. Hein. C'est quand même une charge de travail assez conséquente hein, en parallèle de sa vie privée. Donc il y a déjà deux groupements forestiers oui, qui ont dupliqué la façon de faire de l'Oupicato.
Pour une fois, on est content quand quelqu'un pique quelque chose.
Ah non, on donne volontiers. On a mis une année avec un groupe d'une trentaine de personnes à mettre en place toutes nos idées, à partager nos idées, à mettre en place plein de documents, notre charte, etc. Donc c'est un travail collectif et on le donne volontiers.
Merci. Joseph, tu viens vraiment de l'autre bout de la France, Normandie. Et donc, apparemment, tu as l'objectif, avec d'autres, de créer une structure locale du réseau pour les alternatives forestières là-haut. Mais peut-être tu pourrais te présenter un peu comment ça se fait que tu t'intéresses à la question de la forêt.
Oui, moi, la question de la forêt, eh bien, en fait, elle est venue en fait, par une expérience en charpente que j'ai pu avoir l'année dernière, 2019-2020, un apprentissage d'un an en charpente en Normandie, où j'ai découvert dans une entreprise des techniques assez particulières en charpente et un rapport particulier au bois qui était au travers de l'écarissage à la hache. Et par moments, en fait, il arrivait qu'on parle évidemment de forêt dans l'entreprise, mais également qu'on aille en forêt, en fait. Dans des moments, évidemment, c'était pas tous les jours, mais il y a eu des moments où on est allé en forêt. Et en fait, par contraste avec le CAP, où je voyais plutôt le monde un peu plus conventionnel de la charpente, et ben, fin, je voyais la place de la forêt, fin, la forêt se dégager un petit peu au travers de cette manière de faire en charpente. Et donc, ça m'a vraiment interpellé. Et là, en fait, je termine mes études en anthropologie et j'essaie de développer une réflexion autour de ça, essayer de mettre ça en évidence, ce lien qui peut se faire entre charpente et forêt au travers de certaines manières de faire avec le bois. Quoi.
Quand tu dis que tu es allé en forêt avec tes collègues, là, c'était pour choisir des bois à couper pour des besoins spécifiques de la charpente ou quoi ?
Ouais, alors en fait, il y a eu deux moments vraiment qui me reviennent en tête. Une fois, c'était vraiment en forêt pour aller couper des arbres en fait avec une association qui s'appelle Charpentiers sans frontières pour les besoins d'un chantier que font chaque année bénévolement des Charpentiers sans frontières. Donc c'était dans une forêt du Perche pour aller couper vraiment des chênes. Et une deuxième fois, donc avec l'entreprise dans laquelle j'étais, donc l'entreprise de Rémi Desmonts, c'était une sortie en forêt qui était assez intéressante puisqu'elle s'est faite avec un expert forestier également de Normandie, dans laquelle en fait il lui montrait quels étaient les arbres qui pouvaient l'intéresser lui en tant que charpentier, qu'est-ce que c'était qu'un bel arbre pour lui qui travaillait à la hache. Et il s'avérait que c'était des arbres que lui considérait plutôt comme du bois de chauffage ou des arbres qui pour certains forestiers étaient dits moches, sales. Donc il y avait cet autre aspect-là. Mais sinon, ce charpentier, donc Rémi Desmonts, travaille également avec un bûcheron qui connaît ses besoins, qui connaît son regard sur l'arbre et qui le fournit assez régulièrement. Dès qu'il voit des beaux arbres en forêt, il pense donc à ce charpentier, à ses besoins, et puis il lui met de côté, quoi.
Et tout ça t'amène à penser que ce serait intéressant d'approfondir la relation ou de créer une relation plus locale avec le réseau pour les alternatives forestières.
Oui, en fait, c'est dans toutes ces réflexions-là que j'ai pu découvrir en fait déjà le RAF qui m'a envoyé vers la branche locale normande qui était tout à fait naissante là, puisque ça, elle a à peine quelques mois à mon avis, et on s'est rencontrés vraiment de visu il y a un mois peut-être. Et puis en fait, ouais, voilà, cette petite branche locale qui est un petit collectif citoyen avec quelques professionnels quand même, qui essaie de mettre en avant et de mettre en lien surtout, je pense, des alternatives sur le territoire normand, bah, moi me semble vraiment hyper intéressante pour justement pouvoir insister sur cette proximité qui peut se faire entre le monde de la charpente et le monde de la forêt. Et donc cette mise en réseau, moi je trouve que c'est une des forces du RAF, réussir à mettre en contact, se faire connaître, croiser les regards, et je pense que c'est ce qui, pour l'instant en tout cas, évidemment, anime de manière générale ce petit collectif de branche locale normande qui est naissante, qui va donner d'ailleurs une association dans les mois à venir. On a pu se rencontrer tous et toutes là pour en discuter. Et oui, moi ce que je trouverais fantastique, c'est de pouvoir proposer en fait, un petit peu sur le même format que l'arbre à la poutre, que proposent déjà différentes associations au travers du RAF et tout, mais également proposer, voilà, dans des formations peut-être plus formelles ou qualifiantes, disons, voilà, une éducation du regard de jeunes charpentiers ou de charpentières qui sont en CAP à la forêt et à la possibilité de se fournir en bois autrement que par le négoce ou par les grands marchands de bois, quoi.
D'accord, donc formation, ce serait une partie importante de ce qu'on pourrait mettre en place. Mais j'imagine que branche locale, il y a des côtés professionnels, mais il y a, en tout cas au RAF, il y a des gens qui sont parfois dits amoureux de la forêt. Bon, enfin, ils sont passionnés par la forêt, sont forcément travaillés dedans. Donc ça peut être aussi un élément de sensibilisation peut-être. À ce qui, comment ça se passe chez vous ? Formation, c'est plus professionnel, mais peut-être il y a un aspect de simplement, ça peut être des balades en forêt ou autre chose, mais de que les gens découvrent la réalité de la forêt.
Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, pour l'instant, les idées de formation sont surtout que des paroles. Là, pour l'instant, ce qu'on a fait en acte, c'est avant tout des balades en forêt entre nous, déjà pour apprendre à se connaître, se voir, parce que bon, ces derniers mois étaient surtout beaucoup de distance et d'écran, et là c'était voilà, le fait de on s'est tous quasi vus pour la première fois en forêt, donc c'est quelque chose qui est assez fort. Et évidemment, ça c'est l'éducation du regard, le apprendre à sentir la forêt, à la goûter, à la voir, à la toucher. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu déjà faire la semaine dernière, dimanche dernier, où on s'est un peu retrouvé en forêt de Broglie, donc en Normandie. Et on a pu, avec quelques experts naturalistes, vraiment observer les plantes, les arbres, les différents stades forestiers, juste se balader et puis être là ensemble au pied des arbres. Déjà ça, c'est le plus important. Je pense que c'est réussir à se retrouver au pied des arbres, peu importe qui on est, quel travail on fait. Mais déjà ça, oui, et je pense que ça, c'est quelque chose que, sans surprise, je pense qu'on va essayer de mettre en avant en Normandie un maximum, quoi, et voir ce qui se fait déjà aussi, parce qu'il y a plusieurs petites associations très locales. Je pense à une association qui s'intéressait vraiment au bocage normand, qu'on est allé visiter également, où on nous a montré les haies du bocage normand, une petite scierie à façon également très locale. Enfin voilà, mais oui, ces moments-là qui sont des moments de formation, mais enfin surtout de partage, où on se retrouve au pied des arbres, ça va être carrément au cœur aussi du projet collectif. Ouais.
Et merci. C'était Alternative Forestière à Alterland, première partie. Il s'agit de la 30e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Si vous voulez en savoir plus sur les activités et les projets du RAF, dont la mise en place de branches locales dans différentes régions françaises, consultez son site www.alternativeforestiere.org. Vous trouverez, entre autres, toutes les autres émissions de la série Entre cimes et racines.